Et pour parler de Gautier, cette fois, Gautier dont il a été souvent question dans le cours, hein, peut-être pas aussi souvent que de Baudelaire ou de Hugo, mais très raisonnablement, et qui lui aussi a été très sensible à tous ces thèmes que nous avons évoqués, hein, qu'il s'agisse de la voirie, des ressources de cette métaphore du chiffonnage également. Et j'ai donc demandé à Martine Lavaux, qui est à l'université Paris 4 Sorbonne, à côté d'ici, qui est l'une des spécialistes de Gautier, mais non seulement de Gautier, je lui ai demandé de revenir à Gautier pour explorer ce thème chez cet auteur. Et son titre est « Du crochet du chiffonnier ». Au ras de Montfaucon, la poétique de la voirie, selon Théophile Gautier. Merci.
J'appuie, et voilà, c'est magnifique. Oui, du crochet du chiffonnier, j'aurais presque pu écrire de l'archet du chiffonnier. On va pouvoir le vérifier par la suite. Et admettons que nous soyons en juin 1838, dans la voirie de Montfaucon, près des buttes Chaumont, Théophile Gautier est là, suffoqué par une atmosphère si corrosive qu'elle noircit l'argent dans les poches, dit-il. Donc ce Gautier de 26 ans, celui-là même qui, 3 ans auparavant, dans la préface de Mademoiselle de Maupin, lançait aux bourgeois utilitaristes, en le provoquant, l'endroit le plus utile d'une maison, ce sont les latrines, phrase très connue, se trouve face à 3,5 hectares de bassins de vidange urinaire et fécale, 3 ou 4 étangs d'un liquide inqualifiable et couverts de pellicules jaunâtres comme le plomb en fusion, baignant de leurs ondes épaisses une chaussée du haut de laquelle les voitures épanchent leur immonde chargement. Voici donc Gautier confronté à des latrine géante, pourrait-on dire, au règne hyperbolique de l'utile. Grâce au procédé du chimiste Jacques Mare, l'urine donne du sulfate d'ammoniac, les excréments un engrais, la fameuse poudrette de Montfaucon. Au siècle suivant, répondant à Benjamin pour corriger le portrait du chiffonnier en Bohème, Adorno fait cette remarque, en définitive, acteur essentiel d'un utilitarisme qui exploite jusqu'au rebut le plus abject, puisque grâce à lui rien ne meurt et tout se recycle, le chiffonnier est la pièce maîtresse du libéralisme et de son universelle marchandisation. Ce qui d'ailleurs rejoint la pensée du sociologue Le Play, telle qu'il l'a formulée en 1855 et telle que vous l'avez également présentée, Antoine Compagnon. Nul d'ailleurs, pas même le peintre à qui le sang de Montfaucon fournit son bleu de Prusse, n'échappe à la chaîne du recyclage utilitariste, et prendre la voirie ou la chiffonnerie comme matériau esthétique, c'est donc pour un romantique se confronter à un défi de taille. Et pour autant, Gautier ne s'est détourné ni de l'une ni de l'autre, le traitement esthétique de tels sujets ayant même pour enjeu l'assainissement de la voirie par la poésie et d'une certaine façon la victoire sur le bourgeois. Je voudrais donc, après avoir circonscrit un corpus de la chiffonnerie et de la voirie, examiner comment Gautier parvient à négocier le traitement d'un objet doublement ingrat, physiquement et socialement. Ma démarche sera simple, je commencerai par observer principalement le discours de la représentation du chiffonnier. Puis je tâcherai de mesurer les correspondances de cette représentation de la chiffonnerie avec la pratique critique de Gautier, pour établir une sorte de chiffonnerie critique de Gautier. Et puis je crois que nous pourrons ensuite vérifier l'impact du discours de la voirie de Montfaucon en particulier, qui est un ensemble de textes fondateurs, sur la création littéraire de Gautier. En somme, il s'agit de montrer que l'imaginaire du chiffonnier et de la voirie n'est pas une réalité superficielle, mais une structure profonde de l'imagination et de l'imaginaire littéraire, et qu'elle fait l'objet d'une intériorisation vraiment créatrice, dans le cas de Gautier en l'occurrence, mais évidemment pas seulement. L'intérêt de Gautier pour la voirie est précoce et se repère dans un article du Figaro du 12 octobre 1836, intitulé « Les rues », où le romantique déplore l'absurdité d'un urbanisme qui tantôt pave et repave inutilement, tantôt laisse triompher la fange. D'autres articles suivront. La presse du 19 février 1844 évoque le bas des maisons souillées de boue, de vin et de sang de la rue aux Fèves. Un autre article, le 11 mars 1861, déplore la pâte boueuse des habitations. La liste pourrait continuer. Et du reste, on peut consulter un certain nombre des textes relatifs à Paris, à ses voies de circulation, à ses monuments, dans un volume qui s'appelle « Paris et les Parisiens » et qui a été réédité il y a 8 ans aux éditions de la boîte à documents. Mais de toute façon, ce n'est pas la voirie conçue comme l'organisation des voies de circulation qui va nous retenir, mais en raison du défi esthétique qu'ils impliquent, les lieux de concentration et de traitement de la fange ou de la charogne. À cette approche de la voirie, nous ajouterons la chiffonnerie, activité dont les belles heures coïncident avec la vie de Gautier, qui, ayant 19 ans en 1830, meurt avec le Second Empire, tout au moins au début de la Troisième République, et 11 ans avant que le préfet Poubelle ne porte un coup fatal aux chiffonniers. Alors, le repérage du corpus pose certains problèmes, car il est brouillé par un discours indirect ou allusif, qui, parce qu'il met en jeu des propriétés essentielles de l'imaginaire de la voirie ou de la chiffonnerie, doit être pris en compte. Donc, finalement, il y a deux corpus, un corpus référentiel explicite et un corpus, pour ainsi dire, métonymique, dont l'imaginaire rentre pourtant en résonance avec la chiffonnerie. Du côté du corpus direct, pour nous dire, nous allons considérer 14 textes évoquant le thème de la chiffonnerie, ce qui n'est pas pléthorique, mais en l'occurrence significatif. L'ensemble totalise près de 45 pages, si l'on prend pour maître étalon le format d'une page de l'histoire de l'art dramatique de Hetzel, par exemple, ce que j'ai fait. Ce groupement peut être subdivisé, et pardon, j'ai passé le magnifique portrait de Gautier par Auguste de Châtillon, et le plan sur lequel je reviendrai de toute façon tout à l'heure. Ce groupement donc peut être subdivisé en 3 sous-ensembles. Le premier, qui concerne les expériences vécues, comporte 6 textes, dont 3, publiés pendant l'été 1838, sont consacrés à Montfaucon. 2 autres sont issus du voyage en Russie de 1858, et le dernier, publié en 1864, propose un souvenir de jeunesse. Cette catégorie de vision directe, comme les appelle le journalisme contemporain, représente 26 pages écrites dans un intervalle de 26 années. Le deuxième sous-ensemble, celui de la critique, rassemble 18 pages correspondant à 6 articles, 4 de critique dramatique, 2 de critique d'art, portant essentiellement, pour la critique d'art, à des chiens philosophes et à la peinture animalière de Stevens. Le tout couvre un empan chronologique de 17 ans entre 1847 et 1864. La troisième sous-catégorie concerne 2 poèmes de Gautier, les Variations sur le carnaval de Venise, publiés dans la Revue des Deux Mondes du 15 avril 1849, ainsi qu'un sonnet non daté, Le Chiffonnier. Globalement, cette évocation directe de la chiffonnerie, qui couvre une période de 30 ans, concerne en 1838 la voirie de Montfaucon et pour le reste, le chiffonnier. Pour des raisons qu'on comprendra plus tard, je n'étudierai le corpus Montfaucon que dans un dernier temps, et commencerait par l'évocation du chiffonnier sur lequel, pour Gautier, a pesé le double poids du stéréotype et d'un certain moralisme. Dans son compte-rendu des chiffonniers de Bayard, Sauvage et de Courcy, en août 1847, il en vient même quasiment à chasser le chiffonnier de la Seine. L'action de ramasser des papiers maculés et des loques au coin des bornes constitue-t-elle une originalité bien tentante à reproduire ? Il nous semble que c'est violer la pudeur de la misère que de l'exposer ainsi à l'hilarité des bourgeois. Cet extrait suit un paragraphe qui indique que, non pas que Gautier ne puisse pas voir les chiffonniers en peinture, mais au contraire, il voudrait ne les voir qu'en peinture, et il propose une représentation exclusivement iconographique de la chiffonnerie. Le propos peut d'autant plus surprendre que 3 mois auparavant, le 17 mai 1847, il s'est enthousiasmé pour le chiffonnier de Paris de Félix Piat, bien sûr, dont une version ultérieure non censuré inclura par ailleurs une curieuse Marseillaise chantée par un chœur de grisettes. « Allons enfants de la courtine, le jour de boire est arrivé. » Pourquoi ce curieux contraste? Trois raisons probablement. D'une part, la pièce de Bayard Sauvage et de Courcy est d'une qualité nettement inférieure à celle de Pia. Il y a ensuite l'absence de Lemaître qui soulève à lui tout seul la pièce de Pia, le chiffonnier de Paris. Le contraste des distributions d'acteurs doit sans doute jouer. Et puis il y a aussi le fait, me semble-t-il, que Gautier, en cette période politique troublée, cherche à dépolitiser un sujet qui est représenté ici du côté de sa misère sociale. Or, il se trouve, et nous le verrons, que c'est un aspect que Gautier édulcore ou fuit d'une certaine manière, mais nous y reviendrons. Il semble aussi, je sais, c'est une hypothèse, que Gautier assimile les chiffonniers aux ouvriers, qu'ils aperçoivent un danger politique potentiel, ce qui effectivement n'est pas justifié, mais n'oublions pas qu'à cette époque, il y a des vers qui concernent cette époque, ceux d'Emo et Camé, les fameux vers qui expliquent qu'il prétend écrire Emo et Camé sans prendre garde à l'ourangan. Il y a là une posture évidemment de détournement de l'abord politique du sujet, même s'il n'est pas justifié. Le 25 mars 1861, Gautier sera plus arrangeant avec la fille des chiffonniers, qui multiplie les faux hasards et les divertissements. Découverte d'une enfant trouvée, Mariette, choyée par 333 papas, question de l'adoption, là il y en a 333 papas armés de lanternes et de crochets. Découverte de billets de 1000 francs, de lettres révélant l'origine de Marielle, ouverture brutale d'un trapillon englottissant Bamboche, exécution d'un pas de bourré par la mère Moscou, déchaînement des chiffonnières dans un cancan échevelé, tout est cette fois beaucoup plus léger en réalité et politiquement moins tendu, plus léger jusqu'à la femme du chiffonnier qui demeure si légère qu'on ne peut même pas la noyer parce qu'elle flotte, nous dit Gautier. Il n'empêche que la pièce de Pia remporte, la préférence de Gautier, non pour le sujet qui n'y est pour rien, mais par la grâce du génie dramatique de Lemaître, digne des Nibelungen et semblable à un titan foudroyé. Gautier remarque à son sujet qu'il a le génie de réconcilier toutes les classes, il subjugue l'élite tout autant que le peuple que Gautier aperçoit agglutiné tout en haut du théâtre. L'art est ici investi par la grâce du jeu de Lemaître, d'une faculté, celle de construire une forme de réconciliation, de paix sociale en quelque sorte. Ce qui est surprenant, c'est qu'il ne se rencontre, pour ainsi dire, pas de chiffonnier dans les romans ou nouvelles parisiens de Gautier. Pas de crochet, pas de hôte. Les rues y sont boueuses, mais le personnel en est absent, pour ainsi dire, bien que le chiffonnier ait été pour Gautier une figure nocturne familière, notamment sous la monarchie de Juillet. Il remémore, il ressuscite ses rencontres d'autrefois, qu'il raconte ainsi, on entrait au petit jour, comme les chiffonniers, cette Diogène qui ne sont plus assez naïfs pour chercher un homme avec leur lanterne, eux, leur hôte pleine de chiffons, nous, notre cervelle pleine d'idées. Ces mœurs, vrai, il y a une vingtaine d'années, n'existent plus pour ainsi dire. Paris se couche maintenant d'assez bonne heure, il soupe rarement et se promène peu à la lueur des étoiles. C'est un texte donc du 23 mai 64. Le chiffonnier, en tant que référent social, se trouve ici placé dans la pénombre d'un second plan, celui d'un comparant finalement évacué d'un discours qui associe la chiffonnerie à un processus mental, chargeant la cervelle du poète d'idées nocturnes. Et dans le second paragraphe, où Paris associe le poète aux bourgeois, qui se couche tôt sous le Second Empire, le chiffonnier disparaît tout à fait de l'horizon identitaire. Le plus surprenant, c'est que si Gautier tend à évacuer le chiffonnier de cette description parisienne, en tout cas à l'estomper plutôt, il le convoque là, parfois là où on ne l'attend pas, par exemple en Russie, au sujet des mendiants ou d'un joueur d'orgue qu'il rapproche du Thomas Virloque de Gavarnie, parfois assimilé à un Diogène chiffonnier. Gautier acclimate la culture parisienne dans la froideur russe, parlant même d'une copie en chair et en guenille d'une lithographie parisienne que l'hiver russe avait enluminée de son rouge septentrional, on eût dit une tomate dans de l'étoupe. Relégation au second plan métaphorique, tendance à l'évitement de l'approche sociopolitique et du portrait direct par interposition d'un plan comparatif, d'une référence iconographique, exportation de la figure du chiffonnier parisien hors frontières, tout travaille, à défaut de l'euphémiser, à dépayser un type sans doute parfois trop convenu. Et j'insiste sur un point, c'est d'une façon générale chez Gautier, la délocalisation de la pauvreté dans le temps, notamment, je pense aux grotesques qui vont nous proposer des mendiants ou des pauvres hères ou des ivrognes du temps de Louis XIII, voire du Moyen-Âge, dans l'espace, avec ici cette référence au chiffonnier en Russie, et en art, notamment aussi, bien sûr, avec Stevens, notamment, et ses chiens philosophes. C'est un semblable dépaysement qui se produit dans cet extrait des Variations sur le carnaval de Venise de 1849. Paganini, le fantastique, un soir, comme avec un crochet, a ramassé le thème antique du bout de son divin archet et, brodant la gaze fanée que l'oripeau rougit encore, fait sur la phrase dédaignée courir ses arabesques d'or. Ce poème a probablement été inspiré par le concert dont Gautier a fait le compte-rendu un mois plus tôt, le 12 mars 1849, Teresa Milanello y ayant magnifiquement exécuté les variations de Paganini. Paganini, qu'on appelait le fantastique, l'archer du diable, capable ici de broder une arabesque d'or sur un vieil air. Gautier, habituellement champion du jet premier et définitif, a beaucoup remanié ce passage, travaillant dans le sens de la discrétion et de la concentration. Discrétion parce qu'au départ, il avait prévu d'introduire l'expression « fange triviale » qui va disparaître. Tout comme le « haillon » qui laisse la place à la gaze fanée, plus délicate. Concentration parce qu'au lieu du divin archer, le poète avait proposé une formule plus lourde. L'art divinise tout ce qu'il touche de son sceau. Ce qui avait des sabots un peu gros relativement aux cothurnes, image que Gautier convoque au sujet de sa poésie, ce fameux cothurne étroit. Tout dans la genèse du poème va dans le sens d'un raffinement du message, d'une ellipse de la fange dans laquelle le poème aérien pourrait s'embourber, de l'alcool au profit d'une suggestion spiritualisée de l'ivresse, d'une sorte d'anoblissement, d'assainissement de l'ignoble. Le seul texte poétique intégralement consacré au chiffonnier se démarque, et de façon réaliste, se démarque cependant du précédent pour cette raison même. La pratique des bourrimés caractérisant davantage les dernières années de Gautier, lorsqu'il est bibliothécaire de la princesse Mathilde, on peut le situer vers 1868, probablement. Le voici, le chiffonnier. Lorsque le chiffonnier, dans un placé d'ordures, philosophiquement fouille avec son crochet, il pêche un moniteur, un museau de brochet, un os vide de moelle, une carcasse dure, un vieux poêlon qui lui, par faute de soudure. Et puis, quand il est las de jouer de l'archer, au cabaret d'Oudaf, il s'emplit le bréchet pour éteindre la soif que son gosier endure. Dans son affreux taudis, sans prendre un chandelier, il monte en titubant, gris comme un cordelier. L'ivresse devant lui va soufflant dans sa flûte. Il braille et donne lutte ainsi qu'un grand chanteur. Mais bientôt le sommeil, agréable menteur, lui montre le triomphe et la fin de la lutte. C'est un texte publié tardivement par Lauvin Joule en 1887, donc de publication posthume. Si l'alcoolisme, le bric-à-brac, qui relèvent d'une poétique romantique sont des motifs convenus. Deux autres le sont un peu moins. La pêche, d'abord, qui met sur le même plan le moniteur et le brochet, rappelle ce que disait le plaid du chiffonnier avec sa liberté, son crochet de piqueur. Le chiffonnier est la survivance urbaine du chasseur ou du pêcheur, la déclinaison culturelle d'un phénomène naturel. Autre motif, la présence dans le tas d'ordures du journal de l'Empire, le moniteur universel. Que le moniteur soit devenu un déchet ne doit pas être lu comme une atteinte au régime, bien sûr, mais comme le reflet d'une réalité, l'entrée du support journalistique dans la logique industrielle de l'éphémère et du recyclage. Dans un moment d'inconscience masochiste, j'ai compté les articles de Gauthier et le nombre de journaux dans lesquels il les a publiés. Près de 3000 articles, près de 100 journaux. Dieu sait qu'il dut falloir beaucoup de chiffons pour produire tout ce papier. Ce sonnet réaliste semble faire un peu exception à notre hypothèse du dépaysement. Oui, mais il s'agit, comme je le disais, d'un jeu poétique inédit jusqu'à ce que Lovenjoul le publie à titre posthume en 1887. La circulation s'en est donc limitée au microcosme courtisan du cercle impérial, et c'est bien la version vénitienne du chiffonnier que Gauthier a destinée à la postérité. Parce qu'il tend à l'évitement du portrait réaliste, à l'euphémisation, au dépaysement, c'est vers le corpus indirect que je voudrais me tourner, là où les propriétés essentielles de la chiffonnerie sont déplacées et forment un réseau que j'aimerais détisser dans un ensemble de textes qu'on pourrait qualifier peut-être abusivement de chiffonnerie critique. Et je voudrais commencer ces considérations en remarquant que très tôt, au XIXe siècle, une association circule, même sans doute avant, qui relie la chiffonnerie au motif des perles d'Ennius. Ennius est ce poète latin des 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ, dont ne reste que le vestige d'une formule devenue une scie, Virgile tirait des perles du fumier d'Ennius. Ainsi parla Horace, qui, nourrissant la postérité de Virgile, laissait Ennius dans la fosse des oubliés. Henri Kozik, évoquant le chiffonnier dans un numéro de l'Illustration de 1863, précise ainsi à l'intention des chiffonniers, vos loques, vos chiffres, vos résidus, des gens qui fournissent les chiffons aux chiffonniers, vos loques, vos chiffres, vos résidus sont pour lui ce qu'était pour le poète le fumier d'Ennius. Cette association survivra aux chiffonniers classiques dans les textes érudits de la Troisième République. En 1909, une revue scientifique, historique et littéraire mentionne la trouvaille d'un texte de Saint-Amand dans la hotte d'un chiffonnier, une pièce de verre s'est rencontrée qui fait songer à la perle dans le fumier d'Ennius. Voilà qui, bien sûr, évoque les grotesques de Gauthier. Ce chantier de 10 exhumations littéraires ouvert en janvier 1834 et qui fait aussi référence aux perles d'Ennius qu'il s'est agi, nous dit Gauthier, d'extraire du fumier où l'histoire littéraire trouve parfois des bijoux. Il y a quand même un phénomène étrange, parce que Gauthier publie la plupart de ses exhumations dans la France littéraire de Charles Malot à partir de 1834, une revue de société savante dans laquelle on retrouve la triple association du chiffonnier, de l'archéologue et du fumier d'Ennius. En effet, la France littéraire, contrairement à ce qu'on croit souvent, est vraiment une revue de société savante d'archéologie. Or, Gauthier retire le chiffonnier de la chaîne associative alors qu'il en est environné et lui substitue la métaphore de la hyène qui renifle les cadavres. Pourquoi ? Sans doute parce que pour un jeune France de 23 ans, un savant fait moins frénétique qu'une hyène, laquelle, dans le volume savant de la France littéraire, fait tâche. Il est possible, en forçant un peu le trait certes, qu'une hyène soit finalement un chiffonnier frénétique, pourrait-on dire. Quoi qu'il en soit, bien des témoignages montrent des érudits fouineurs postés auprès du chiffonnier, comme le rouge-gorge auprès du jardinier qui vient de retourner la terre. Dans le chiffonnier littéraire d'Étienne de Jouy, en 1823, un érudit attrape de son crochet le précieux vestige d'un document littéraire en passe d'être détruit. Mais certains récits sont aussi des supercheries, comme celui de la découverte par Benjamin Sacrobille, chiffonnier enregistré sous le numéro 47 d'une lettre factice qui, en pleine bataille d'Hernani, dévoile les manœuvres des classiques à l'encontre des romantiques. J'imagine que ce texte n'a aucun secret pour Jean-Marc Ovas. Il pourra me dire peut-être si Gauthier le connaissait, je ne sais pas. En 1854, dans un étrange dictionnaire des écrivains pseudonymes et autres mystificateurs de la littérature française, Kérard évoque un employé au ministère de la guerre qui, sous le pseudonyme du père Jean, chiffonnier de son état, a publié un catalogue des nouveaux journaux de 1848 et l'opinion d'un chiffonnier de Paris sur M. de Lamartine. On perçoit l'efficacité de la mise en scène. Comme dans les mélodrames qui placent sous le croc du chiffonnier la révélation d'un secret de famille, l'exhumateur voit remonter le refoulé, les non-dits de l'histoire officielle. L'archéologue qui gratte la terre, devient le chiffonnier de l'histoire. Pour lui, rien ne se perd et tout a une valeur. On peut certes émettre une réserve. L'archéologie encourage une collection, le musée. Or, même si certains chiffonniers sont devenus collectionneurs, la collection ne relève pas, on a eu l'occasion de l'entendre, de la chiffonnerie, qui obéit à une logique de la transformation et du recyclage, quand la première relève de la conservation. En quoi, par conséquent, les exhumations littéraires de Gautier rencontrent-elles la chiffonnerie malgré tout ? Eh bien, en vertu d'un traitement particulier qui les soumet non précisément à la conservation, mais à la décomposition et à la transformation. Gautier n'est pas le bibliophile de Naudier, et ses livres sont des cadavres appréciés comme tels. Il découvre Scalion de Virbuneau grâce à l'odeur putride de sa charogne, dit-il. La poésie de Pierre de Saint-Louis lui monte à la tête comme Lassa fétida. Celle de Villon est obsédée par les charniers, l'ensemble des grotesques filant la métaphore de la putréfaction, du fumier et de la tourbe. Surtout, Gautier, après avoir exhumé les cadavres de ses gloires ridicules, les replonge dans la poussière, ce qu'il dit à la fin de sa postface. La chiffonnerie littéraire n'est pas nécessairement le levier de la scène de reconnaissance, comme dans les mélodrames. Il ne s'agit pas exactement de conserver, de réhabiliter, de collectionner, mais d'exhiber, sans toujours interrompre leur processus de décomposition, une série d'objets littéraires ouvertes, les grotesques n'ayant pas prévu de fin. J'ajouterai une précision, c'est que Gautier opère également dans ses grotesques un très subtil travail de recyclage linguistique. Il s'amuse en effet à revitaliser une langue oubliée et à noyauter son texte moderne avec un langage enfoui dans l'histoire littéraire. En tout cas, on l'a compris, il est beaucoup question de décomposition dans cette critique littéraire. Le lexique organique de Gautier peut surprendre, et certains critiques lui ont attribué à Gautier une horreur profonde des viscères et des écorchés qui lui fait privilégier l'épiderme minéral des statues. Ce n'est pas complètement faux, mais la réalité est plus compliquée. Évoquant le travail du chiffonnier, le guide Johann de 1855 célèbre l'utilité de sa fonction qu'il qualifie de « métempsychose de l'industrie urbaine ». Or, c'est ce processus, cette permanence de l'âme dans la métamorphose de la matière qui obsède Gautier, au point que le rapport antithétique entre la chair putrescible et le marbre éternel peut être discuté. C'est ce dernier point d'ailleurs que j'aimerais aborder en montrant dans quelle mesure les textes de vision directe de la voirie de Montfaucon ont constitué pour lui le matériau d'un recyclage, d'une transformation propre à l'économie circulaire de son œuvre, en quelque sorte, de la même façon qu'à la voirie de Montfaucon, on décompose les rebuts, les corps morts, grâce au miracle de la chimie, on les transforme, on les recycle, on les modifie, eh bien, les textes du voyage hors barrière de Gautier vont avoir une fonction déterminante. Ils vont être soumis dans le reste des textes, un certain nombre de textes qui vont le suivre, dans l'œuvre de Gautier, un processus de décomposition, de reprise, de recomposition, qui fait justement de cet aspect la mise en œuvre d'une métempsychose poétique, pourrait-on dire, mais c'est un peu prétentieux, peut-être un peu inexact. En tout cas, l'expression de la voirie participe au processus créatif de Gautier de façon profonde. En 1838, donc, le poète a publié 3 courts récits de voyage, dont 2, Montfaucon et la ville des rats, sont consacrés à un lieu qui concentre l'abjection du corps, la pestilence macabre des entrailles, le dépouillement sanglant des 13 000 chevaux annuels, chats et chiens ramassés par le chiffonnier. Là, on est très loin de ce chien philosophe que commente Gautier en 1855, ce chien philosophe de Stevens, qui a à ses pieds, tout près des pattes, un tas d'immondices, d'où dépassent des coquilles d'huîtres, un homard, qui servent de prétexte finalement à une nature morte qui n'a rien à voir avec ce que la voirie de Montfaucon va offrir. La voirie de Montfaucon, dernier cercle de la chiffonnerie, comme vous l'avez dit, j'ai lu ailleurs une image beaucoup moins gracieuse. Le sphincter de la capitale, C'est le donc, dernier cercle de la chiffonnerie. C'est une réalité donc, qui impressionne fortement Gautier. Et l'époque de ces voyages hors barrières pestilentielles, c'est aussi celle de la Comédie de la mort, un recueil poétique de Gautier souvent méconnu, non par Baudelaire, qui dut tirer de cette fange quelques perles, je suppose, de ses fleurs du mal. Une véritable obsession de la décomposition hante l'œuvre de jeunesse de Gautier, qui s'en éloigne tandis que le travail du temps, en le rapprochant de la mort, et comme pour ralentir l'inéluctable processus, lui fait préférer une poétique de la minéralité. Du Montfaucon de 1838 à l'évocation minérale du Paris sans cadavre de la Commune dans Tableau de siège, son dernier texte, publié en 1872, le poète semble commencer par un cloaque et finir par un marbre. Pourtant, là encore, ce n'est pas si simple. Le voyage hors barrière fonctionne comme un gradus ad parnassum inversé, dont l'esthétique monte en puissance à mesure qu'on descend en enfer. De la même façon, plus le spectacle de l'écarissage est immonde, plus les manières des écarisseurs sont aristocratiques. On passe avec élégance d'un salon à un autre. Lorsqu'il se rend à 300 mètres de l'actuelle place du colonel Fabien, Gautier accomplit simultanément deux tâches. Un reportage avant la lettre et un tableau de genre à la Vanastad, Velázquez ou Descamps. Montfaucon et la ville des rats explorent deux voies d'accès complémentaires à l'horreur toutefois. Et ils vont donc plus loin encore que cela, que le tableau de genre bien sûr. Montfaucon exhibe les enfants bizarres des écarisseurs. Albinos tamisant l'infâme Poudrette. Comme des chercheurs d'or. Poudrette, excrémentielle, d'où surgissent, ou pourrait surgir, un objet précieux. S'étalent aussi les chairs des chevaux et des chiens, les dépouilles des chats suspendus fourrés de paille, les bassins d'urine infectes. C'est un texte hautement chromatique, dont la palette se superpose à celle que Gautier utilisera presque 30 ans plus tard, en 1867, dans sa nécrologie de Baudelaire, en évoquant les nuances morbidement riches de la pourriture, plus ou moins avancée, les eaux stagnantes, verre empoisonné et métallique puant l'arséniate de cuivre, murs plâtreux, bitume recuit et roussi, tons de nacre et de burgot, cette dernière teinte étant justement fabriquée à partir du sang de Montfaucon. Le lexique chromatique putride et chimique de la nécrologie de Baudelaire est donc partagé avec celui qui sert à évoquer la voirie, peut-être en issue, le tout obéissant à une sorte d'économie circulaire de la couleur. En définitive, la visite à Montfaucon est au peintre ce que la première autopsie est à l'étudiant de médecine. Une étape rude, mais nécessaire à l'apprentissage et à l'endurcissement. Dans le dernier texte de la trilogie de 1838, il est question des rats monstrueux qui investissent les cadavres des chevaux. Ils sont décrits comme de macabres architectes qui, nettoyant les carcasses, y construisent des galeries, y organisent des chambres, des corridors et des salons, et se promènent dans les dédales. Le premier voyage hors barrière était celui des couleurs, des viscères, de la puanteur. Le second est celui de la forme, de la structure et de la peau tendue sur les os, comme sur un tambour. Le récit de la myophagie des rats est donc, relativement au premier, moins olfactif et plus oculaire. Or, Gautier s'y révèle, fasciné par un détail. L'endroit recherché et délicat, le fin morceau, le solilès de ces gastronomes trotte-menus, c'est l'œil du cheval. Les chefs de la troupe attaquent les yeux, les trous fendent la cornée et vident l'orbite, jusqu'à ce qu'ils aient atteint à une petite pelote de graisse qui tapisse le fond de la cavité. Cette friandise équivaut pour un rat gourmand à ce que serait pour nous une perdrix truffée ou une terrine de Nérac. Lorsque l'œil avide de Gautier est saisi par le spectacle de cette oculophagie, voilà 2 ans que les catalogues Randwell ont annoncé son Capitaine Fracasse, dont les premiers feuilletons ne paraîtront qu'en décembre 61, et dont l'écriture est liée à celle des grotesques, également peuplée de poètes Louis XIII et Gascon. Or, les grotesques et le Capitaine Fracasse sont tissés sur une même trame commencée dans la voirie de Montfaucon. Les grotesques s'attardent sur le gibet de Montfaucon via la balade du pendu que cite le texte de 1838. Villon ayant été destiné, comme vous le savez, au gibet de Montfaucon qui n'existait plus, mais il y a quand même évidemment un lien évident. avant que Fracasse ne mentionne Montfaucon à trois reprises. Soit que surgisse une rosse que traversait Montfaucon, soit qu'un brigand y soit représenté attendant que sa carcasse déchiquetée tombe en la fosse du gibet, soit enfin que le roman décrive un maigre bidet et son œil enchâssé dans une orbite au fond de laquelle les rats de Montfaucon n'eussent pas trouvé le plus léger atome de graisse. Le passage se poursuit et reprend, en définitive, l'extrait écrit en 1838. Le lecteur de la ville des rats, donc en 1838, avait pu contempler l'image d'un cadavre de cheval gelé, si dur que les rats ne pouvaient l'attaquer. Ce cadavre de cheval va être décliné, non plus dans une région froide, mais sur un mode méditerranéen, dans le voyage en Espagne de 1843, qui, racontant une scène de tauromachie où un cheval meurt sous les coups d'un taureau, propose également une longue référence, très explicite, à Montfaucon. À ce bal des recyclages s'invite le voyage en Russie. Alors que Gautier vient de rééditer les grotesques chez Lévy, le voyage en Russie, dont l'écriture accompagne aussi la jeunesse du fracasse, évoque les vêtements des mendiants, vieux à ne pas être piqués par le crochet d'un chiffonnier en faillite, et fait suivre l'évocation de celle du grotesque Saint-Amant, que Gautier avait exhumé en 1835. Quant au costume du misérable, joueur d'orgue, évoquant un chiffonnier, il est digne de Callot, dit-il, et ses bottes de feutre sont, comme dans les grotesques, un poème de misère et de délabrement. Nous ne retrouvons donc plus seulement ici, dans ce texte russe, un chiffonnier hors barrière, mais un grotesque hors barrière, qui n'est ni français, ni Louis XIII, mais russe et contemporain, de sorte que Gautier libère la figure de son ancrage géographique et culturel, la dépolitise et l'autonomise radicalement, faisant d'elle un type universel du poète marginal, le réel et l'art étant eux aussi hors barrière. Plus encore, le voyage en Russie fait du chiffonnier l'allégorie de la mort. Les mendiants squalides, lit-on, sont de vrais haillons humains que le chiffonnier funèbre n'avait sans doute pas voulu par dégoût piqué de son crochet et jeté dans sa hotte. Cette vision du haillon humain sur la neige va être reversée dans le capitaine Fracasse, dont le comédien Matamor, misérablement maigre, meurt de froid de la neige, dans la neige, ainsi que son cheval. Le baron de Cigognac se propose de le remplacer, mais en créant cette fois le personnage du Fracasse. Matamor, donc ici, illustré par Doré, voué à mourir et à être remplacé donc par le Fracasse. Ce motif du cadavre dans la neige fonctionne comme un signal, celui de deux phénomènes dont la succession est immédiate, la décomposition et la recomposition dans ce qui, en définitive, procède d'une réinvention consubstantielle. Matamor va donner Fracasse, et précisément chez Gautier, cette image apparaît régulièrement du sombre cadavre qui se découpe sur la neige immaculée et qui signale qu'un type se voit réinventé sur la page blanche. Ce principe dans l'œuvre de Gautier est donc étudié, ce principe de la réinvention, de la décomposition, de la recomposition, est donc étudié, observé à Montfaucon avant de déterminer la genèse littéraire de ce qui ne relève pas de l'autoplagiat, puisqu'il y a création d'autre chose, mais de la décomposition et recomposition d'un matériau source. Ce processus, j'aurais pu le montrer, mais je n'ai pas le temps, s'applique aussi au thème du cabaret de Paul Niquet, par exemple, le quartier général des chiffonniers dont l'évocation circule dans la critique dramatique de Gautier, avant de migrer de façon décomposée dans le Paris du XVIe siècle des grotesques. Mais on voit une déclinaison aussi de ce cabaret de Paul Niquet dans la Londres moderne de Partie Carrée, et bien sûr dans le Paris Louis XIII du capitaine Fracasse. Là encore, on assiste à cette délocalisation des lieux de sociabilité de la chiffonnerie, délocalisation et transposition historique de façon assez claire. J'ajouterai juste une chose auquel je pense soudain concernant nos fameux rats, les rats qui mangent les yeux. Il se trouve que le passage du rat, dont on a vu qu'il apparaissait aussi dans le voyage en Russie presque... dans le Fracasse, pardon, presque textuellement, presque à l'identique, plutôt, est déclinée sur un mode humoristique 2 ans après le texte du Voyage à Montfaucon sur d'autres rats, les petits rats de l'opéra. Et dans ce texte, on voit les petits rats de l'opéra fuir de façon destructrice dans des galeries de l'Académie de la rue Pelletier, avec ce qualificatif de rongeur destructif qui va le représenter. Et ce qui est amusant, c'est de voir la façon dont ce texte sur les petits rats de l'opéra allège le contenu profondément impressionnant de la voirie de Montfaucon et finalement le distille dans une représentation humoristique, en jouant avec les reprises, justement. Alors Gautier ne croit sans doute pas en Dieu, mais il croit en la permanence de l'âme dans la redistribution de la matière. Et son poème « Affinité secrète », publié le 15 janvier 1849, avant d'être inséré dans « Émaux et Camées », est là pour en attester. Marbre, perle, rose, colombe, tout se dissout, tout se détruit. En se quittant, chaque parcelle s'en va dans le creuset profond, grossir la pâte universelle faite des formes que Dieu fond. Par de lentes métamorphoses, les marbres blancs en blanche chair, les fleurs roses en lèvres roses se refont dans des corps divers. Des poudres fécales et des rats voraces de Montfaucon à la refonte marmoréenne du creuset universel, le processus de purification et d'assainissement esthétique est clair. La métempsychose, la métamorphose ne s'arrête pas dans les statues. Son métabolisme y est juste ralenti. Je sais bien qu'on peut penser à l'art, l'art robuste, seul à l'éternité, le fameux texte de Gautier, mais il ne faut pas se laisser abuser par lui. Car tout au long de son œuvre, Gautier ne cesse de s'interroger sur la fragilité des matériaux. Qu'est-ce qui vit le plus longtemps ? Qu'est-ce qui se décompose le plus vite ? La toile des tableaux, elle s'effiloche, les pigments, ils s'altèrent, les livres, ils moisissent, les statues, même elles se cassent et s'érodent. Et on voit ce type de considération notamment dans le texte du musée du Louvre, où on a une réflexion assez étonnante sur le caractère putrescible des tableaux. Une synthèse de ces réflexions, des réflexions de Gautier à ce sujet, pourrait presque donner un petit précis d'économie durable et comparer des matériaux artistiques, finalement. Alors, le paradoxe soulevé au début de cette intervention, c'est que le chiffonnier, ce petit industriel, incarne le principe de l'utilitarisme contre lequel la préface de Mademoiselle de Maupin s'est acharnée. Quand, dans le même temps, la littérature fait de lui ce que Starobinski appelle, au sujet du saltimbanque, un répondant allégorique du poète. La position est-elle tenable ? On lit dans Mademoiselle de Maupin, j'y reviens donc, « Défense de poser des ordures ici ». Devons-nous déposer nos ordures devant la porte de Théophile Gautier ? La réponse est oui. D'autant plus qu'on a le droit à ce qui est juste défendu, comme on le voit sur cette plaque qui est toujours sur la maison. Il est défendu de laisser passer les chevaux et bestiaux sur le trottoir, ce qui est le comble quand on est allé à Montfaucon. Au fond, pour lui, et quitte à contrarier son habituelle réception, l'inutile n'existe pas. Non seulement parce qu'il est convaincu que la contemplation du beau contribue au bonheur collectif, au point qu'il a même suggéré quelque part que l'État ferait bien de demander un impôt aux gens laids, idée d'autant plus drôle qu'elle est inadmissible, mais aussi parce que l'art, dit-il, trouve son butin partout. C'est ce qui est écrit dans Le Voyage en Russie. En exhibant la chiffonnerie et les affres de la voirie que la société cache, en les transformant en objets esthétiques, l'artiste piège le bourgeois qui crée de la discontinuité, là où tout est continu, même sur le plan moral. En rangeant d'un côté le bien, de l'autre le mal, dans des boîtes hygiéniquement étanches, le bourgeois contredit le principe qui dirige sa propre économie, laquelle précisément récupère tout, donne un avenir et une valeur à tout. Même en art, l'endroit le plus utile d'une maison, peut-être finalement les latrines. Je vous remercie.